Montaigne, livre 3 des essais sur les voitures. Il est facile de vérifier que les grands auteurs, quand ils écrivent sur les causes premières, ne se servent pas seulement de celles qu'ils estiment être vraies, mais aussi de celles auxquelles ils ne croient pas, pourvu qu'elles aient quelque chose de nouveau et de beau. S'ils parlent habilement, ils disent tout de même des choses plutôt vraies et utiles. Comme nous ne pouvons pas être sûrs de détenir la cause ultime, nous en entassons plusieurs pour voir si, par chance, elles se trouveraient dans ce nombre. Il ne suffit pas d'indiquer une seule cause, il faut en donner plusieurs dont une seule sera la bonne, dit Lucrèce. Me demandez-vous, par exemple, d'où vient cette coutume de bénir ce qui éternue? Nous produisons trois sortes de vent. Celui qui sort par le bas est trop sale, celui qui sort par la bouche traîne avec lui le reproche de gourmandise, le troisième est l'éternuement. Et parce qu'il vient de la tête et qu'il n'a rien de blâmable, nous l'accueillons avec les honneurs. Ne vous moquez pas de cette subtilité. Elle est, dit-on, d'Aristote. Il me semble avoir lu dans Plutarque, qui est de tous les auteurs que je connaisse celui qui a le mieux su allier l'art à la nature et le jugement à la science, quand il traite de la cause pour laquelle l'estomac se soulève chez les gens qui voyagent en mer, que cela leur vient de la crainte qu'ils éprouvent. C'est qu'il a trouvé quelque raisonnement par lequel il prouve que la crainte peut produire un tel effet. Moi qui suis fort sujet à ce malaise, je sais bien que cette cause ne joue pas sur moi. Et je le sais non par un argument, mais par une expérience indiscutable. Je ne crois guère à ce que l'on dit. Que la même chose se produit chez les animaux, et spécialement chez le porc, donc hors de toute conscience du danger. Et je ne crois pas non plus à ce qu'une personne de ma connaissance m'a raconté sur lui-même, qui est fort sujet, à savoir que l'envie de vomir lui était passée à deux ou trois reprises parce qu'il se trouvait sous le coup d'une grande frayeur. Et pas non plus à cet ancien qui écrit « J'étais trop malade pour penser au péril ». Je n'ai jamais eu peur sur l'eau, pas plus que dans d'autres circonstances d'ailleurs. Je n'ai jamais été troublé ni ébloui par la peur. Et j'ai pourtant connu des situations qui eussent pu la susciter, si la mort en est une. La peur naît quelquefois d'un manque de jugement ou d'un manque de courage. Tous les dangers que j'ai connus, je les ai affrontés les yeux ouverts, avec une vue claire, nette et entière. Il faut aussi du courage pour avoir peur. Et ce courage m'a bien servi d'autres fois, comme à d'autres, pour diriger convenablement ma fuite, pour qu'elle soit, sinon sans crainte, du moins sans effroi, et sans grave paralysie. Elle se fit avec émotion, mais sans affolement ni désarroi. Les grandes âmes font beaucoup mieux et opèrent des reculs non seulement calmes et ordonnés, mais fiers. Rappelons ce qu'Alcibiade raconte sur Socrate, son compagnon d'armes. « Je trouvais, dit-il, après la déroute de notre armée, avec la caisse parmi les derniers à fuir. Je l'ai examiné à mon aise et en toute sécurité, car j'étais sur un bon cheval et lui était à pied. C'est ainsi que nous avions combattu. Je remarquai d'abord combien il montrait de présence d'esprit et de résolution en comparaison de la caisse, puis la belle assurance avec laquelle il marchait, comme à son habitude, son regard ferme et tranquille, en regardant et jugeant ce qui se passait autour de lui, observant tantôt les uns tantôt les autres, amis comme ennemis, d'une façon qui encourageait les uns et signifiait aux autres qu'il était bien décidé à rendre cher son sang et sa vie à ceux qui essaieraient de les lui prendre. Et c'est ainsi qu'ils échappèrent tous les deux, car on n'attaque pas volontiers des gens comme eux, on court après ceux qui sont effrayés. Voilà le témoignage de ce grand capitaine qui nous apprend ce que nous constatons tous les jours. Il n'est rien qui nous jette autant dans les dangers que le besoin irraisonné de nous en échapper. En général, moins on a peur, moins on court de risques, dit Livre. On a tort de dire couramment que quelqu'un craint la mort pour dire qu'il y songe ou qu'il la prévoit. La prévoyance concerne ce qui peut nous arriver, que ce soit en bien ou en mal. Examiner et apprécier le danger est plutôt le contraire de s'en effrayer. Je ne me sens pas assez fort pour soutenir la choc et la violence de cette émotion qu'est la peur, pas plus que d'une autre impression violente. S'il m'arrivait d'être vaincu et abattu par elle, je ne m'en relèverais jamais complètement. Ce qui aurait pu faire perdre pied à mon âme ne pourrait pas plus la remettre en place ensuite. Elle se met à l'épreuve et s'examine trop vivement et trop profondément pour laisser se refermer et se réparer la blessure qui l'aurait transpercée. Heureusement pour moi, je n'ai été atteint d'aucune maladie qui ait pu l'abattre. À chaque épreuve que je rencontre, je me présente et m'oppose tout armé. La première qui m'emporterait me laisserait sans ressources. Je ne puis faire face à deux à la fois, quel que soit l'endroit où s'ouvrirait une brèche dans ma digue, je serais exposé au flot et noyé sans espoir. Épicure dit que celui qui est sage ne peut jamais penser à un état contraire. Mais moi j'ai l'idée que c'est plutôt l'inverse. Qui aura été vraiment fou une fois ne sera jamais plus vraiment sage. Dieu souffle le froid selon le vêtement que l'on porte et les souffrances selon ce qu'on est capable de supporter. La nature m'ayant découvert d'un côté m'a couvert de l'autre. M'ayant désarmé de force, elle m'a armé d'insensibilité et d'une appréhension du danger maîtrisée, voire émoussée. Mais je le puis supporter longtemps. Oh oui, ça a été pire encore dans ma jeunesse. Ni voiture, ni litière, ni bateau. Et je déteste toute façon de me déplacer autre qu'à cheval, que ce soit en ville ou au champ. Je supporte encore moins la litière que la voiture. Et pour les mêmes raisons, je supporte encore mieux une eau très agitée, qui pourtant peut faire peur, que le mouvement que l'on brasse sans partant calme. Cette légère secousse que dominent les avirons et qui font se dérober le vaisseau sous nos pieds, je ressens, sans savoir pourquoi, ma tête et mon estomac se brouiller de la même façon que je ne puis supporter d'être assis sur un siège mouvant. Et quand la voile ou le courant nous emporte de façon régulière, ou qu'on nous hale, cette agitation uniforme ne me cause nulle peine. C'est un mouvement saccadé qui me fait mal, et surtout s'il est faible. Je ne saurais le décrire autrement. Comme remède à cet effet fâcheux, les médecins m'ont ordonné de me sangler le bas-ventre avec une serviette bien serrée. Mais je n'ai pas essayé de le faire, parce que j'ai l'habitude de lutter contre mes imperfections et de les dompter par moi-même. Si j'étais assez au fait de ces choses-là, je n'hésiterais pas à raconter ici l'infinie variété d'usages que l'on a fait des voitures au service de la guerre, selon les pays et selon les siècles, comme on le voit dans les livres des historiens. Elles furent de grande nécessité et très efficaces. C'est pourquoi il est étonnant que nous n'en avons plus le souvenir aujourd'hui. J'en dirai seulement ceci. Il n'y a pas si longtemps, du temps de nos pères, les Hongrois se mirent très efficacement à lutter contre les Turcs. Dans chacune de leurs voitures, il y avait un soldat armé d'un bouclier et un autre avec un mousquet, ainsi qu'un grand nombre d'arquebuses chargées et prêtes à tirer, le tout protégé par une sorte de pavois fait de boucliers, comme sur les petites galères. Ils mettaient 3 000 de ces voitures en ordre de bataille sur le front, et quand les canons avaient tiré, ils les lançaient et les faisaient dévaler sur les premières lignes en tirant leurs salves avant de s'attaquer au reste de la troupe, ce qui constituait un énorme avantage. Ou bien ils les lançaient sur les escadrons ennemis pour les démanteler et s'y ouvrir un passage. Ces voitures constituaient ainsi un secours que l'on pouvait disposer dans les endroits critiques, sur le flanc des troupes marchant dans la campagne, ou encore pour protéger à la hâte un campement et le fortifier. De mon temps, sur l'une de nos frontières, un gentilhomme impotent et qui se trouvait par le cheval capable de supporter son poids, alors qu'il était menacé dans une querelle, parcourait le pays dans une voiture de ce genre et s'en trouvait très bien. Mais laissons là ces voitures à usage guerrier. Les derniers rois de notre première dynastie se faisaient traîner dans un chariot tiré par quatre bœufs quand ils se déplaçaient à travers le pays. Comme si on pouvait encore ignorer leur fainéantise. Marc-Antoine fut le premier à faire traîner son char dans Rome par des lions, accompagné d'une musicienne. Héliogabale en fit autant par la suite, se prenant pour Cybèle, la mère de tous les dieux, et se fit traîner par des tigres, imitant ainsi le dieu Bacchus. Il attela aussi par deux fois des cerfs à son char, une autre fois quatre chiens, et enfin quatre filles nues par qui il faisait traîner tout nu lui aussi. L'empereur Firmus fit traîner son char par des autruches d'une taille extraordinaire en sorte qu'il semblait plutôt voler que rouler. L'étrangeté de ces inventions me donne à penser que c'est la marque d'une certaine petitesse d'esprit de la part des monarques, un témoignage du fait qu'ils ne se suffisent pas de ce qu'ils font, mais cherchent à se montrer et se faire valoir par des dépenses excessives. Ce serait une chose excusable en pays étranger, mais parmi ces sujets où son pouvoir est absolu, sa dignité elle-même le place au plus haut point des honneurs auxquels il puisse parvenir. De même pour un gentilhomme, il me semble qu'il lui est inutile de se vêtir de façon particulièrement recherchée. Sa maison, ses domestiques, sa cuisine, tout cela témoigne suffisamment pour lui. Le conseil qu'Isocrate donna à son roi ne me semble pas dépourvu de raison. Qu'il soit splendide par ses meubles et ses ustensiles, parce que ce sont des dépenses faites pour des choses durables, mais qu'il évite toutes les magnificences qui disparaissent aussitôt de l'usage et du souvenir. J'aimais les beaux vêtements quand j'étais jeune, faute d'autres parures, et cela m'allait bien. Il en est sûr que les beaux costumes font tache. On connaît des histoires étonnantes sur la frugalité de nos rois, pour eux-mêmes aussi bien que pour leurs dons. C'étaient de grands rois par leur prestige, leur valeur et leur destinée. Démosthène combattit à outrance les lois de sa patrie, qui dépensait les derniers deniers publics pour donner des jeux et des fêtes. Il voulait que la grandeur des Athéniens se montre par le nombre de leurs vaisseaux bien équipés et de leurs armées bien pourvues. On a bien raison de blâmer Théophraste, qui soutient une position contraire dans son livre. Des richesses, en disant que ce genre de dépenses manifeste une véritable opulence. Ce sont des plaisirs, dit Aristote, qui ne concernent que la populace dont on ne se souvient plus dès qu'on en est rassasié. Aucun homme sérieux et raisonnable ne peut les tenir en estime. Il me semble que cet argent serait bien plus royalement employé, parce qu'il le serait plus durablement et plus utilement pour aménager des ports, construire des havres, des fortifications et des murs, pour édifier les bâtiments somptueux, des églises, des hôpitaux et des collèges, pour remettre en état les rues et les chemins. C'est pour cela qu'on se souviendra longtemps du pape Grégoire XIII, et c'est en quoi notre reine Catherine montrerait pour de nombreuses années sa libéralité naturelle et sa munificence si elle disposait des moyens nécessaires à satisfaire ses goûts. Le destin m'a bien déçu en interrompant la belle construction du pont Neuf dans notre grande ville de Paris et en m'ôtant l'espoir de le voir en service avant ma mort. Et en plus de cela, il semble qu'on présente leurs propres richesses aux spectateurs de ces triomphes et qu'on les régale à leurs dépens, car les peuples s'imaginent volontiers, comme nous le faisons pour nos valets, que les rois doivent avoir pour soi de nous fournir en abondance tout ce qu'il nous faut, mais qu'ils ne doivent nullement y prendre leur part. Ainsi l'empereur Galba, qui avait pris plaisir à entendre un musicien pendant son souper, se fit apporter sa cassette, y prit une poignée d'écus qu'il lui mit dans la main, disant « Ce n'est pas de l'argent public, mais c'est le mien. » Mais il arrive bien souvent que le peuple a raison, et qu'on lui donne souvent à contempler ce qui aurait dû servir à lui remplir le ventre. La libéralité elle-même n'est pas bien à sa place dans les mains d'un souverain. C'est plutôt l'affaire des personnes privées, car si on y regarde de près, un roi n'a rien qui lui appartienne en propre. Il se doit lui-même aux autres. L'autorité de la justice n'est pas faite pour celui qui dit le droit, mais pour celui qui en relève. On ne donne jamais de rang supérieur à quelqu'un pour qu'il y trouve son profit, mais pour le profit de l'inférieur. Un médecin doit profiter au malade et non à lui-même. Toute magistrature, comme tout art, trouve sa fin en dehors d'elle-même. Nul art ne s'enferme en lui-même, Cicéron. C'est pourquoi les précepteurs des jeunes princes, qui mettent un point d'honneur à leur inculquer cette vertu de largesse et leur apprennent à ne rien savoir refuser, à n'estimer rien de si bien employé que ce qu'ils vont donner, éducation fort en vogue de mon temps, ou bien se soucient plus de leur propre profit que de celui de leur maître, ou bien n'ont pas une idée claire de celui à qui ils s'adressent. Il est bien trop facile d'inculquer la libéralité à celui qui a de quoi y pourvoir aux dépens des autres, et sa valeur dépendant non de la valeur du présent, qui est fait mais en fonction des moyens de celui qui le fait, elle en vient à devenir nulle en des mains aussi puissantes. Les voilà prodigues avant d'être généreux. La libéralité de ce fait est peu digne d'être recommandée en comparaison d'autres vertus royales. Selon le dire tyran Denis, c'est même la seule qui s'accorde bien avec la tyrannie elle-même. J'apprendrai donc plutôt au jeune prince ce vers du laboureur antique. Si l'on veut faire une bonne récolte, il faut semer à la main et non verser le grain de sac. Et je lui dirai aussi qu'ayant à donner, ou pour mieux dire à payer, tant de gens pour les services qu'ils ont rendus, il doit se comporter en distributeur loyal et avisé. Si la libéralité d'un prince est sans discernement et sans mesure, ben je préfère qu'il soit avare. Il semble que ce soit la justice qui soit la principale vertu royale. Et de tous les aspects de la justice, celui qui accompagne la libéralité est celui par lequel les rois se distinguent principalement. Alors qu'ils remettent volontiers à des tiers l'exercice des autres, ils ont fait de celui-là leur affaire personnelle. Les largesses immodérées sont un médiocre moyen de s'acquérir de la bienveillance, car elles rebutent plus de gens qu'elles n'en satisfont. Plus on s'en sert et moins on peut s'en servir. Est-il rien de plus sot que de faire en sorte de ne pouvoir faire plus longtemps ce qu'on aime faire? Et si ces largesses sont dispensées sans tenir compte du mérite, elles font honte à qui les reçoit et sont reçues sans reconnaissance. Des tyrans ont été livrés à la haine du peuple par les mains de ceux-là même qu'ils avaient indûment favorisés. Cette sorte d'homme a en effet pensé pouvoir assurer la possession des biens qu'ils avaient injustement reçus en montant de la haine et du mépris envers celui de qui il les tenait et en se ralliant au jugement et à l'opinion commune. Les sujets d'un prince excessif dans ses dons se rendent excessifs dans leurs demandes. Ils se règlent non sur la raison, mais sur les exemples qu'on leur donne. Et certes, il y a souvent de quoi rougir de notre impudence, car en toute justice, nous sommes trop payés quand la récompense équivaut à notre service. N'en devons-nous pas une part à nos princes, en vertu de nos obligations naturelles envers eux? S'il prend à son compte nos dépenses, il en fait trop. Il suffit qu'il y contribue. Le surplus s'appelle un bienfait. C'est quelque chose qu'on ne peut exiger, car le mot même de libéralité sonne comme liberté. D'une autre façon, ce n'est jamais achevé. Ce que l'on reçoit n'est pas pris en compte. On aime la libéralité qu'au futur. C'est pourquoi plus un prince s'épuise à donner, plus il s'appauvrit en amis. Comment assouvirait-il des envies qui s'accroissent au fur et à mesure qu'elles sont satisfaites? Qui ne pense qu'à prendre, ne pense plus qu'à ce qu'il a pris. L'ingratitude est le propre de la convoitise. L'exemple de Cyrus vient à point ici pour servir de pierre de touche aux rois de ce temps et leur permettre de savoir si leurs dons sont bien ou mal employés et leur montrer combien cet empereur les attribuait avec plus de bonheur qu'ils ne le font eux-mêmes. Car ils en sont réduits à emprunter à des gens qui leur sont inconnus, et plus souvent à ceux à qui ils ont fait du mal qu'à ceux à qui ils ont fait du bien. Et l'aide qu'ils en reçoivent n'a de gratuité que le nom. Crésus reprochait à Cyrus ses largesses, et calculait à combien se montrait son trésor s'il avait eu les mains moins trouées. Et pour se justifier de ses libéralités, il envoya des messages dans toutes les directions vers ceux des grands personnages de son empire qu'il avait particulièrement favorisés, les priant de le secourir dans la nécessité où il se trouvait, par la plus grosse somme d'argent possible de lui faire connaître en retour. Quand tous ses engagements lui furent apportés, chacun de ses amis ayant trouvé qu'il ne suffisait pas de lui offrir autant que ce qu'il avait reçu de sa munificence, mais d'y ajouter de l'argent pris sur sa propre cassette, il se trouva que le montant total était bien plus élevé que celui de l'épargne calculée par Crésus. Sur quoi Cyrus dit à celui-ci, « Ben, je ne suis pas moins amoureux des richesses que les autres princes, et j'en suis même plutôt économe. Voyez comment à peu de frais j'ai acquis le trésor inestimable de tant d'amis, et combien ils me sont de plus grands fidèles trésoriers que ne seraient des mercenaires, sans obligation ni affection envers moi. Mon bien est beaucoup mieux placé ainsi que dans des coffres qui attireraient sur moi la haine, l'envie et le mépris des autres princes. » Les empereurs se justifiaient du caractère superflu des jeux et démonstrations publiques qu'ils organisaient, en disant que leur autorité dépendait en quelque manière, au moins en apparence, de la volonté du peuple romain, lequel avait toujours été habitué à être flatté par ces sortes de spectacles et d'excès. Mais ceux qui avaient créé la coutume, consistant à faire plaisir à leurs concitoyens et compagnons par une telle profusion et magnificence, étaient des particuliers, et ils le faisaient essentiellement en prenant sur leur propre bourse. Cette coutume prit un tout autre sens quand ce furent les maîtres qui se mirent à l'imiter. Prendre sur l'argent de légitimes propriétaires pour l'attribuer à des étrangers ne doit pas être considéré comme une libéralité, dit Cicéron. Comme son fils s'efforçait de gagner les bonnes grâces des Macédoniens en leur faisant des cadeaux, Philippe lui fit la leçon dans une lettre ainsi conçue. « Quoi ? Veux-tu que tes sujets te considèrent comme leurs banquiers et non comme leurs rois ? Tu veux gagner leur cœur ? Mais gagne-le par les bienfaits de ta valeur et non par ceux de ton coffre. » C'était pourtant une belle chose que de faire apporter et planter dans les arènes une grande quantité de gros arbres, bien touffus et bien verts, pour simuler une grande forêt ombreuse, arrangée avec une belle régularité, et le premier jour jeter là-dedans 1000 autruches, 1000 cerfs, 1000 sangliers, 1000 daims, pour les abandonner aux mains du peuple, et le lendemain faire massacrer en sa présence 100 lions énormes, 100 léopards, 300 ours, et le troisième jour faire combattre à mort ses pairs de gladiateurs. C'est ce qui fit l'empereur Probus. C'était aussi une belle chose à voir que ces grands amphithéâtres, revêtus à l'extérieur de marbre ciselé et décorés de statues, avec à l'intérieur de précieux et brillants enrichissements. Voici leur pourtour de pierres précieuses et le portique revêtu d'or. Tout le pourtour de ce grand espace était occupé, depuis le bas jusque tout en haut, par 60 ou 80 rangées de gradins, eux aussi recouverts de marbre et de coussins. Qu'ils partent, dit-il, un peu de pudeur, qu'ils quittent les coussins réservés aux chevaliers, lui qui ne paye pas le 100 séquestre prévu par la loi. Mais on aurait pu y ranger 100 000 hommes, assis à leur aise. Quant à l'esplanade du fond où se déroulaient les jeux, on pouvait d'abord, par des artifices, la faire s'entr'ouvrir et se fendre en crevasses qui découvraient des grottes vomissant les bêtes destinées au spectacle. On l'inondait ensuite, la recouvrant d'une mer profonde qui charriait force monstres marins et portait des vaisseaux tout armés prêts à livrer une bataille navale. Puis on la séchait et l'aplanissait de nouveau pour le combat des gladiateurs. Et enfin on y répandait, en guise de sable, du vermillon et de la résine de storax qui embaumait pour y organiser un festin magnifique pour tout ce nombre infini de gens. Dernier acte d'un seul jour. Que de fois avons-nous vu s'ouvrir et s'abaisser l'arène, et surgir des bêtes féroces du gouffre entr'ouvert, où s'élevait une forêt dorée aux écorces safranées. Non seulement nous avons pu y voir les monstres des forêts, mais des phoques au milieu des combats d'ours et les chevaux marins. Le troupeau hideux. Calpurnius. Quelquefois aussi, on y a fait s'élever une haute montagne pleine d'arbres fruitiers et verdoyants, avec un ruisseau s'écoulant de son sommet comme de la bouche d'une source vive. Quelquefois, on y a promené un grand navire qui s'ouvrait en deux de lui-même et qui, après avoir fait sortir de son ventre 400 ou 500 bêtes de combat, se refermait et disparaissait sans intervention humaine. Une autre fois encore, on fit s'élancer des jets d'eau depuis le bas, jaillissant vers le ciel, et qui d'une hauteur incroyable allaient arroser et parfumer la multitude. Et pour se protéger des changements du temps, on faisait tendre sur cet immense espace des voiles brodées à l'aiguille, tantôt de pourpre, tantôt de soie, de diverses couleurs, et on les faisait avancer ou reculer en un instant, à volonté. Même si un soleil ardent règne sur l'amphithéâtre, on retire les voiles sitôt que paraît Hermogène, Martial. Les filets que l'on mettait devant le peuple pour le protéger de la violence des bêtes sauvages qui s'élançaient sur lui étaient tissés de fils d'or. Et s'il y a quelque chose d'excusable en de tels excès, c'est bien quand l'imagination et la nouveauté forcent l'admiration et sont non leur coup. Ces vanités elles-mêmes nous font découvrir combien ces siècles étaient fertiles en esprits différents des nôtres. Et il en est de cette sorte de fertilité comme de toutes les autres productions de la nature. Il ne faut pas croire qu'il y ait mis tout ce dont elle est capable. Pour nous, nous n'allons pas de l'avant. Nous rôdons et tournons en rond ici et là. Nous ne marchons que sur nos propres pas. Je crains que notre savoir ne soit un peu faible à tous égards. Nous ne voyons pas bien loin, ni en avant ni en arrière. Il n'embrasse que peu d'espace et vit peu. Il couvre une faible étendue de temps comme de matière. Il y eut bien des héros avant Agamemnon. Mais nous ne les pleurons pas. Une longue nuit les dissimule. Horace. Avant la guerre de Troie et la mort de cette cité, bien d'autres poètes ont chanté, bien d'autres ont fait. Et ce que raconte Solon de ce qu'il avait appris des prêtres d'Égypte concernant la longue vie de leur état et leur façon d'apprendre et de conserver des histoires provenant de pays étrangers, ne me semble pas un témoignage allant à l'encontre de ce point de vue. S'il nous était possible de contempler dans toutes leurs parties l'immensité des pays et des temps, où l'esprit, se plongeant et s'étendant de toutes parts, se promène en tous sens sans jamais rencontrer de limite qui l'arrête, nous découvririons dans cet espace infini un nombre incommensurable de formes. Et quand tout ce qui nous est parvenu du passé serait vrai et serait connu de quelqu'un, ce ne serait rien par rapport à ce que nous ignorons. Et comme elle est étroite et rétrécie, la connaissance qu'en ont les plus curieux de ce monde qui s'écoule pendant que nous y vivons, non seulement quand il s'agit des événements particuliers, que le hasard rend souvent exemplaires et importants, mais encore de l'état des grandes sociétés et nations. Il nous en échappe 100 fois plus qu'il n'en parvient à notre connaissance. Nous crions au miracle devant l'invention de l'artillerie et de l'imprimerie, mais d'autres hommes à l'autre bout du monde, en Chine, en disposaient déjà 1000 ans auparavant. Si nous pouvions voir une aussi grande partie du monde que celle que nous ne voyons pas, nous apercevrions, c'est probable, une perpétuelle multiplication et un perpétuel changement de forme. Il n'est rien d'unique et de rare dans la nature, cela n'existe que dans notre connaissance, qui est la base indigente de nos règles et qui ne nous donne généralement qu'une image extrêmement fausse des choses. C'est ainsi que nous concluons aujourd'hui, sans aucune certitude, au déclin et à la décrépitude du monde, en vertu des arguments que nous tirons de notre propre faiblesse et décadence. Tant il est vrai que notre âge a perdu ses forces et sa fertilité, et c'est de cette façon aussi vaine que cet autre poète concluait à sa naissance et à sa jeunesse, en fonction de la vigueur qu'il trouvait aux esprits de son temps, fertiles en nouveautés et inventions dans leurs divers domaines. À mon avis, dit Lucrèce, tout est nouveau et récent dans ce monde. C'est depuis peu qu'il est né, et c'est pourquoi aujourd'hui, certains arts s'améliorent et progressent encore. Tout comme de nos jours, bien des choses ont été ajoutées au navire. Notre monde vient d'en découvrir un autre. Et qui peut nous garantir que c'est le dernier de ses frères, puisque les démons, les sibylles et nous-mêmes avons ignoré celui-là jusqu'à maintenant? Il n'est pas moins grand, ni moins plein, ni moins bien doté de membres, mais il est si jeune et si enfant qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas 50 ans, il ne connaissait encore ni les lettres, ni les poids, ni les mesures, ni les vêtements, ni le blé, ni la vigne. Il était encore tout nu dans le giron de sa mère et ne vivait que grâce à elle. Et si nous jugeons bien de notre fin prochaine, comme Lucrèce le faisait pour la jeunesse de son temps, cet autre monde ne fera que venir au jour quand le nôtre en sortira. L'univers tombera en paralysie, l'un de ses membres sera perclus et l'autre en pleine vigueur. J'ai bien peur que nous n'ayons grandement hâté son déclin et sa ruine par notre contagion, et que nous lui ayons fait payer bien cher nos idées et nos techniques. C'était un monde encore dans l'enfance, et pourtant nous ne l'avons pas dressé, ni plié à nos règles par la seule vertu de notre valeur et de nos forces naturelles. Nous ne l'avons pas conquis par notre justice et notre bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart des réponses que les gens de ce monde-là nous ont faites et les négociations que nous avons menées avec eux ont montré qu'ils ne nous devaient rien en matière de clarté d'esprit naturel et de pertinence. L'extraordinaire magnificence des villes de Cusco et de Mexico, et parmi bien d'autres merveilles, les jardins de ce roi où tous les arbres, les fruits et les herbes dans le même ordre et avec la même taille que dans un jardin ordinaire, était en or. De même que dans son cabinet de curiosité, tout toutes les sortes d'animaux qui naissent dans son pays et dans ses mers, la beauté de leurs ouvrages en joaillerie, en plumes, en coton, ou dans la peinture, tout cela montre bien qu'ils n'étaient pas non plus moins habiles que nous. Mais quant à la dévotion, à l'observance des lois, la bonté, la libéralité, la franchise, il nous a été bien utile d'en avoir moins qu'eux. Cet avantage les a perdus, ils se sont vendus et trahis eux-mêmes. Quant à la hardiesse et au courage, à la fermeté, à la constance, à la résolution face à la douleur, à la faim et à la mort, je ne crains pas d'opposer les exemples que je trouve parmi eux aux plus fameux exemples des anciens restés dans nos mémoires dans ce monde-ci. En effet, si l'on tient compte du compréhensible étonnement de ces peuples de voir ainsi arriver inopinément des gens barbus ayant un autre langage, une autre religion, différents dans leur aspect et leurs habitudes, venant d'un monde si éloigné où ils n'avaient jamais su qu'il y eût de quelconques habitations, montés sur de grands monstres inconnus, alors qu'ils n'avaient eux-mêmes non seulement jamais vu de cheval, mais même de bête quelconque dressée à porter un homme ou d'autres charges, si l'on tient compte du fait qu'ils ont été mis en présence de gens ayant une peau luisante et dure, et une arme tranchante et resplendissante, eux qui, pour le miracle de la lueur d'un miroir ou d'un couteau, étaient prêts à échanger de grandes richesses en or ou en perles, et qui n'avaient aucun moyen, ni même le savoir nécessaire, pour percer notre acier. Et si l'on ajoute à cela la foudre et le tonnerre de nos pièces d'artillerie et de nos arquebuses, qui eussent été capables de troubler César lui-même, autant surpris et inexpérimenté qu'eux devant de telles armes. Si l'on considère que tout cela s'est fait contre des peuples nus, sauf dans les contrées où on avait inventé quelques tissus de coton, et qui étaient sans autres armes que des arcs, des pierres, des bâtons et des boucliers de bois, des peuples surpris sous prétexte d'amitié et de bonne foi par la curiosité de voir des choses étrangères et inconnues. Si l'on tient compte enfin des ruses et des stratagèmes par lesquels ceux qui les ont soumis sont parvenus à les tromper, et que l'on met ainsi de côté tout ce qui a donné aux conquérants un énorme avantage, on leur ôte du même coup ce qui leur a permis de remporter tant de victoires. Quand je considère l'ardeur indomptable avec laquelle tant de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se sont exposés tant de fois à des dangers inévitables pour la défense de leurs dieux et de leur liberté, des deux plus puissants monarques de ce monde-là, et peut-être même de celui-ci, étant roi de tant de rois, les derniers que les Espagnols chassèrent, l'un était le roi du Pérou. Il fut pris au cours d'une bataille et soumis à une rançon tellement excessive qu'elle dépasse l'entendement. Elle fut pourtant fidèlement payée. Il avait donné par son comportement les signes d'un cœur franc, libre et ferme, et d'un esprit clair et bien fait. Et les vainqueurs en avaient déjà tiré 1 325 511 d'or, sans compter l'argent et un tas d'autres choses dont la valeur n'était pas moindre, au point que leurs chevaux ne portaient plus que des fers d'or massifs. Il leur prit cependant l'envie de voir, au prix de quelque trahison que ce fût, ce que pouvait contenir encore le reste des trésors de ce roi, et de profiter pleinement de ce qu'il avait conservé. On l'accusa donc, avec de fausses preuves, de vouloir soulever ses provinces pour recouvrer sa liberté, et par un beau jugement, rendu par ceux-là même qui étaient les auteurs de cette machination, on le condamna à être pendu et étranglé publiquement, non sans lui avoir évité d'être brûlé vif, en lui administrant le baptême pour se racheter lors de son supplice. Traitement horrible et inouï, qu'il supporta cependant sans s'effondrer, avec une contenance et des paroles d'une tournure et d'une gravité vraiment royales. Et pour endormir les peuples stupéfaits et abasourdis par un traitement aussi exceptionnel, On simula un grand deuil et on ordonna que lui soit faite de somptueuses funérailles. L'autre roi, celui de Mexico, il avait longtemps défendu sa ville assiégée et montré pendant ce siège tout ce que peuvent l'endurance et la persévérance, tels que jamais un prince et un peuple l'en montrèrent. Mais il était tombé vivant pour son malheur entre les mains de ses ennemis, ayant capitulé sous condition d'être traité comme un roi. Et d'ailleurs, il ne leur fit rien voir dans sa prison qui fut indigne de ce titre. Comme les Espagnols ne trouvaient pas, après cette victoire, tout l'or qu'ils s'étaient promis, et après avoir tout remué et tout fouillé, ils essayèrent d'en obtenir des nouvelles en appliquant les plus terribles tortures aux prisonniers qu'ils détenaient. Mais ne parvenant à rien, enfin de gens plus forts que les pires de leur traitement, ils furent pris d'une telle rage que, contrairement à la parole donnée et en dépit du droit humain le plus élémentaire, ils condamnèrent le roi lui-même et l'un des principaux personnages de sa cour à la torture, l'un en présence de l'autre. Ce grand personnage, succombant à la douleur et entouré de brasiers ardents, tourna sur la fin un regard pitoyable vers son maître, comme pour lui demander pardon de ce qu'il n'en pouvait plus. Alors le roi, plantant fièrement et carrément son regard dans le sien, pour lui reprocher sa lâcheté et sa pusillanimité, lui dit seulement ces mots d'une voix rude et ferme. « Et moi, crois-tu donc que je sois dans mon bain? Suis-je vraiment plus à l'aise que toi ?» L'autre succomba sur le coup à ses douleurs et mourut sur place. Le roi, à demi brûlé, fut enlevé de là. Ce ne fut pourtant pas par pitié, car quelle pitié toucha jamais des âmes aussi barbares. Pour obtenir un éventuel renseignement sur quelques vases d'or à piller, ces gens étaient capables de faire périr par le feu un homme, même un roi, si grand soit-il, par son destin et sa valeur. Mais c'est que sa constance rendait en vérité de plus en plus honteuse leur cruauté. Ils le pendirent par la suite, quand il tenta courageusement de se délivrer par les armes d'une aussi longue captivité de sa suggestion. Il se donna ainsi une fin digne d'un prince d'une si grande qualité. Une autre fois, ils firent brûler vives ensemble dans un même brasier 460 personnes, 400 hommes du peuple et 60 autres pris parmi les principaux seigneurs d'une province qui étaient simplement prisonniers de guerre. C'est d'eux-mêmes que nous tenons ces récits, car ils ne se contentent pas de les avouer, ils s'en vantent et les publient. Serait-ce donc pour témoigner de leur souci de justice ou de leur zèle envers la religion? Certes non. Ce sont des procédés trop contraires, trop opposés à une si sainte fin. S'ils avaient eu pour but de protéger notre foi, ils auraient compris que cela ne se fait pas par la possession des territoires, mais des hommes. Et ils se seraient bien contentés des meurtres que cause la nécessité de la guerre sans y ajouter une telle boucherie, comme s'il s'agissait de bêtes sauvages, et si générales autant qu'ils ont pu y parvenir par le fer et le feu, n'en ayant volontairement conservé que le nombre nécessaire pour en faire de misérables esclaves à travailler et servir dans leurs mines. Au point que plusieurs de leurs chefs, d'ailleurs souvent déconsidérés et détestés, ont été punis de mort sur les lieux de leur conquête par ordre des rois de Castille, offensés à juste titre par l'horreur de leur comportement. Dieu a fort justement permis que ces grands pillages soient engloutis par la mer pendant leur transport ou à la suite de guerres intestines pendant lesquelles ils se sont entretués. Et la plupart de ces gens étaient enterrés en des lieux sans qu'ils aient pu retirer aucun fruit de leur victoire. Le butin ainsi amassé, même placé entre les mains d'un prince économe et sage, répond fort peu à l'espérance qu'on en donna à ses prédécesseurs et à la première abondance de richesses qu'on découvrit d'abord. Même si on en tira beaucoup, ce n'était rien en effet par rapport à ce que l'on pouvait en attendre. c'est que l'usage de la monnaie était entièrement inconnu là-bas, et que par conséquent, tout l'or qu'il possédait fut trouvé entassé, ne servant qu'à la parade et aux démonstrations, comme un meuble conservé de père en fils par des rois puissants, qui exploitaient toujours complètement leur mine pour accumuler un grand monceau de vases et de statues destinés à l'ornement de leurs palais et de leurs temples. Chez nous, au contraire, l'or est employé pour la monnaie et le commerce. Nous en faisons de menus morceaux, nous lui donnons mille formes, nous le répandons et le dispersons. Pouvons-nous imaginer un instant que le roi ait ainsi amoncelé tout l'or qu'ils auraient trouvé au cours des siècles pour le garder à ne rien faire? Les habitants du royaume de Mexico étaient plus civilisés et plus avancés dans leur technique que ne l'étaient ceux des autres nations de là-bas. C'est pourquoi ils pensaient, comme nous, que l'univers était proche de sa fin, et ils en prirent pour signe la désolation que nous y avons apportée. Ils croyaient que l'être du monde se divise en cinq âges, marqués par cinq soleils successifs, dont les quatre premiers avaient déjà fait leur temps, et que celui qui les éclairait était le cinquième. Le premier périt avec toutes les autres créatures dans une inondation universelle. Le second, par la chute du ciel sur la terre, qui étouffa tous les êtres vivants. Il situe à cet âge l'existence des géants, dont ils firent voir des ossements aux Espagnols, et d'après lesquels la taille de ces hommes devait faire environ 20 paumes. Le troisième périt par le feu, qui embrasa et consuma tout. Et le quatrième, sous l'effet d'une agitation de l'air et du vent, qui abattit même plusieurs montagnes, et les hommes n'en moururent point, mais furent changés en singes. Oh, jusqu'où peut aller la crédulité humaine! Après la mort de ce quatrième soleil, le monde fut 25 ans dans de perpétuelles ténèbres. À la 15e année de cette période,